franceinter.fr.
Et la fertilité masculine, aujourd'hui à la une de la science.
Au tout début, c'est bien connu. Il y a la semence déposée par l'homme dans le ventre de la femme. Des spermatozoïdes par millions, un flot, un torrent de spermatozoïdes. Tous vont mourir, tous, sauf un.
Voilà, et comment faire justement lorsqu'on souhaite être parent et qu'on n'a pas un seul de ces précieux spermatozoïdes? Eh bien, la solution, vous l'avez probablement trouvée, Philippe Durand et Marie-Hélène Perard. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
C'était le 17 septembre dernier. Racontez-nous l'objet de votre découverte.
Eh bien, on a pu réaliser in vitro toute la spermatogénèse grâce à la collaboration que nous avons eue avec un chimiste. Nous avons mis en culture des tubes séminifères humains dans un bioréacteur qui a été élaboré par ce chimiste. Mmh. Il s'agit de tubes de chitosan. Et on a pu ainsi réaliser toute la dernière étape. Nous avions un système de culture auparavant qui ne réalisait que les deux premières étapes. Et on avait un arrêt à la spermatidrone, qui est le précurseur direct des spermatozoïdes. Et grâce à la culture que nous avons réalisée dans ce tube de chitosan, eh bien, nous avons pu réaliser la troisième étape de la spermatogénèse, c'est-à-dire la spermiogénèse, le passage de la spermatide ronde au spermatozoïde.
Votre découverte a été beaucoup reprise depuis 4 mois. Quelles ont été les réactions de la communauté autour de vous et même des particuliers?
Alors, les particuliers, ils nous ont beaucoup écrit par mail. C'est assez saisissant et même très touchant. On a reçu plus de 400 mails du monde entier d'hommes qui sont infertiles ou de couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et qui demandent éventuellement s'ils pourraient participer lorsque les premiers essais cliniques seront lancés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement touchant pour nous, parce que c'est vrai que les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants, c'est souvent un drame pour eux. Et donc, si on peut les aider, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous motive énormément, oui, bien sûr.
Alors, sauf qu'il y a évidemment le temps de la science, hein, Philippe Durand et Marie-Hélène Perard, qui est très long, et il y a des promesses évidemment extraordinaires derrière cette prouesse que vous avez réalisée. C'est compliqué de dire à ses parents, justement, que ça va demander encore plusieurs années avant de pouvoir réellement passer à l'homme.
Oui, les gens sont très impatients. Même des fois, ils se proposent pour être cobaye pour la technique, mais ça, on ne peut pas. Et c'est vrai qu'on est obligé de leur répondre que ça ne sera pas avant 4 ou 5 ans qu'on pourra mettre sur le marché cette expérience.
En septembre, vous nous disiez vouloir tester votre méthode d'abord sur les rats. Où en êtes-vous aujourd'hui ?
Pour pouvoir faire une ICSI, donc une injection intracytoplasmique d'une tête d'un spermatozoïde dans un ovocyte, il faut quand même récupérer un certain nombre de spermatozoïdes pour que les biologistes qui pratiquent ce genre de technique, l'ICSI, puissent travailler. Donc, on en est maintenant, justement, à essayer de récupérer dans les meilleures conditions possibles un nombre suffisant de spermatozoïdes pour pouvoir faire cette micro-injection. Une fois que la micro-injection est faite dans l'ovocyte, il faut transplanter cet ovocyte dans une femelle receveuse qui a été préparée pour ça, et puis attendre que les petits ratons naissent. Donc on en est à optimiser le rendement, la récupération des spermatozoïdes qu'on obtient en culture.
Alors, la technologie, évidemment, était essentielle dans cette prouesse, puisque vous le disiez tout à l'heure, vous avez mis en culture des cellules souches de bulbes testiculaires grâce à des bioréacteurs. On peut peut-être citer quand même le nom de Laurent David, hein, qui est à l'origine aussi de cette prouesse.
Oui, c'est l'association de son savoir-faire et d'une autre qui a fait que ça a fonctionné.
Et vous avez donc déposé ensemble un brevet de la méthode. Par contre, il n'y a toujours pas de publication dans une revue à comité de lecture. Comment est-ce que vous expliquez ce délai ?
On a évidemment, c'est quand même une première mondiale, on en est quand même assez content. Donc on a voulu cibler des journaux généralistes, des journaux scientifiques généralistes, qui s'adressent donc à des communautés scientifiques d'horizons très différents, en particulier en médecine. Et finalement, c'est vrai que c'est un peu surprenant parfois les retours qu'on reçoit, puisque jusqu'à présent, les revues qu'on a ciblées nous disent « oui, ça serait mieux de publier ailleurs ». Les reviewers nous ont pas dit que la science n'était pas bonne, mais il nous semble que ça serait mieux de s'adresser dans un journal qui drainent plutôt les gens de votre spécialité. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu surprenant, voire désespérant. Maintenant, de toute façon, qu'on a déposé le brevet, on a un peu plus de temps pour faire passer la publication, même si le temps presse quand même, parce que c'est quand même une bonne chose d'avoir l'aval d'un journal scientifique, quoi.
On n'en arrive pas du tout encore à l'application chez l'homme, mais peut-être un jour. Est-ce que vous pensez que ce genre de première, de test avec des spermatozoïdes humains serait accepté en France?
Sur ça, on va dépendre de l'agence de biomédecine. Ce sont eux qui vont donner les règles à suivre. Et pour le moment, on n'a pas bien de réponse à ce jour.
Mais vous êtes conscient qu'il y a des questions éthiques, évidemment, qui se posent aussi autour de ces pratiques.
Tout à fait, tout à fait. De toute façon, c'est normal aussi. Enfin, on veut pas faire n'importe quoi. Bon, déjà, si dans une espèce rongeur ou même primate, puisqu'on a fait aussi cette spermatogénèse in vitro chez un singe qui s'appelle le Cynomolgus monkey. Donc, c'est sûr que ça donnera déjà des arguments. Si les petits qui naissent sont normaux, ça donnera des arguments positifs pour penser que les spermatozoïdes humains, eux aussi, sont normaux. Mais effectivement, il y a un certain nombre de contraintes éthiques et réglementaires auxquelles il faut qu'on se plie. Et ça, c'est tout à fait légitime.
Voilà, donc ces spermatozoïdes complets et fonctionnels in vitro, c'était un des événements quand même de l'année scientifique, Axel, à la une de la science donc aujourd'hui.
Et on vous souhaite du courage et peut-être à bientôt.
Et une bonne fin d'année. Merci Marie-Hélène Perra.
Merci beaucoup.
Et Philippe Durand, bonne chance à vous. On espère vous retrouver bientôt dans La Tête au Carré. À bientôt.